Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 27 avril 2025. Nous sommes à une petite semaine de la No Code Week, voilà, qui aura lieu à Milan, donc la semaine prochaine. Mais ça, évidemment, je vous en reparlerai plus. Probablement que je ferai des interviews. J'ai pas encore eu le temps vraiment de m'organiser, mais je vais prendre du matériel pour faire des interviews et tout. Donc voilà, il y aura des choses, ne vous inquiétez pas, vous serez tenus au courant, évidemment. J'ai deux petites news à partager que j'ai trouvées intéressantes au milieu du vaste bruit, on va dire, ambiant. Même si, quelque part, je trouve que ça s'est un petit peu calmé. Mais bon, c'est sûrement moi aussi. Il y a beaucoup, quand je dis, je parle de bruit et de FOMO et de choses comme ça. Il y a une partie qui vient de moi aussi. Quand je me regarde moins LinkedIn, et ben ça se passe mieux aussi. Et je pense que quand j'ai moins de temps et que j'ai plus plein de choses à faire, ben je regarde moins LinkedIn et c'est très bien. Alors, première chose qui est quand même importante, c'est que le modèle GPT image est disponible via l'API. Et bon, ce modèle, il est très impressionnant, on ne va pas revenir dessus, même s'il n'a pas toujours été, il n'est pas toujours utilisé à bon escient. N'empêche que c'est quand même très très impressionnant. Et donc, on peut maintenant l'intégrer dans des automatisations, dans des API, enfin dans des appels d'API, dans des applications, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, donc il s'appelle GPT-image-1, si vous vous appelez par l'API. Donc voilà, avec les mêmes calls, hein, que c'est toujours les mêmes routes d'API et tout. Et le nombre de tokens, je me posais un peu la question, en fait le nombre de tokens est fixe, parce que c'est suivant la taille de l'image que vous demandez. Il y a trois tailles d'image et il y a trois qualités. Et donc, si vous demandez une image carrée en qualité basse, eh ben, ça vous coûtera que 272 tokens, ce qui est important. Alors le prix des tokens, je l'ai vu passer, on est sur, je crois, 5$ pour 1 million de tokens, un truc comme ça. Peut-être que je dis une bêtise, j'aurais dû évidemment, comme d'habitude, regarder avant, pricing page, hop, on va le retrouver. C'est bien fait, hein, ouais, c'est ça, on est sur 5$, 5$ de 5$ le million de tokens, donc c'est pas mal. C'est dans les ordres de prix des modèles, voilà, GPT-4o, etc. Donc voilà, donc ça vous coûte pas forcément très cher, et donc ça peut être intéressant vu les qualités. Et on peut aussi faire des edits, et on peut faire pas mal de choses. Enfin, ça a l'air assez bien fait d'après la documentation, même si je l'ai pas testé. Alors, l'autre chose que je voulais vous partager, que je viens de tester un petit peu à l'instant, c'est Lovable 2.0. Donc, vous le savez probablement si vous écoutez ce podcast. Lovable, c'est une des alternatives à Bolt. Donc, c'est ces outils qui permettent de générer des applications en mode texte. Voilà, des applications très généralistes, du JavaScript. Et donc Lovable, ils ont une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'au début, on était vraiment dans des clones, hein, c'est-à-dire que bon, Bolt et Lovable, c'était vraiment la même chose. Et il y en a toute une autre, une palanquée. Voilà, je ne mettrai pas forcément Zite là-dedans, parce que je trouve que Zite est un petit peu différent. Mais on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Par contre, voilà, des clones pour créer vraiment des applications, il y en a plein. Et ça commence vraiment à diverger, et notamment ce Lovable 2.0 commence à offrir des fonctionnalités que je trouve vraiment intéressantes par rapport à Bolt. Bolt, c'était un peu le premier. Et voilà, mais Lovable, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'ils font d'un point de vue interface. C'est-à-dire qu'ils relèguent vraiment le code au second plan. Au début, d'ailleurs, dans Lovable, on ne pouvait même pas modifier le code. Maintenant, on peut. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. Parce que si vous êtes en mode vibe coding, a priori, si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas forcément dev. Donc voilà, donc c'est pratique de pouvoir aller regarder le code, pouvoir le lire pour modifier du texte notamment. Et ce qui est cool avec Lovable, c'est que si vous voulez modifier des choses graphiques, je l'ai déjà dit, eh ben, vous pouvez le faire en mode visuel, vous cliquez sur un élément, vous pouvez régler sa taille, etc. Voilà, et ce qu'ils ont ajouté dans le mode, donc dans leur version 2.0, un premier truc très intéressant, c'est le côté multiplayer, comme ils disent. Donc vous pouvez travailler à plusieurs sur un projet. Il y a une notion d'équipe, d'éditeur, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Ils ont aussi introduit une fonctionnalité, alors j'ai pas vraiment vu comment ça fonctionnait, mais ça a l'air plus ou moins intégré, ou c'est peut-être... Enfin, c'est un security scanner, donc vraiment, ce qu'ils disent en tout cas, que avant de... Ah oui, c'est au moment de publier, voilà, oui, donc je ne suis pas allé jusqu'à publier, mais donc il y a une fonctionnalité de scan de sécurité, et donc ils indiquent qu'ils publient les résultats du scan dans une petite fenêtre de dialogue. Donc ça, c'est pas mal quand même, parce qu'on en parle souvent, c'est un des trucs qui est vraiment reproché au vibe coding et à la génération de code par IA en général, c'est que potentiellement, c'est pas sécurisé. Et je pense qu'on a raison de se dire ça, même si c'est peut-être un petit peu surévalué, parce qu'il n'y a pas tant que ça de raison que des IA codent plus mal que des développeurs. Tous les développeurs ne sont pas excellents, hein, donc voilà, malheureusement. Mais je pense qu'on a raison de se méfier ça. Il y a quelque chose d'un petit peu irrationnel, mais il y a aussi une partie que c'est juste, on a raison, quand il y a des nouvelles technologies, il vaut mieux prévenir que guérir, et donc craindre un petit peu ça. Donc voilà, et donc ça se voit qu'ils prennent ce sujet à cœur, puisque voilà, ils proposent cette fonctionnalité-là. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je vais la tester très bientôt. Je vous dirai, mais voilà, je pense que c'est le rôle de ces outils comme Bolt, Lovable, Cursor, etc., de proposer ce genre de fonctionnalité, parce que eux, ils ne font pas la génération de code en tant que tel, c'est des LLM sur lesquels ils reposent, généralement Sonnet 3.7 de chez Anthropic, mais eux, c'est à eux de fournir tout ce qui va autour. Alors, d'abord, les environnements de développement, de production, les connexions avec les backends type Supabase, mais aussi les possibilités d'éditer facilement les sites, et aussi la sécurisation, potentiellement aussi le passage à l'échelle, voilà, pas mal de choses comme ça, donc voilà, donc je suis assez content de voir que Lovable le propose. On verra comment Bolt répliquera à ça, mais en tout cas, voilà. Alors je crois qu'ils ont un petit peu augmenté leur prix aussi au passage, puisque ça commence à $25 par mois pour 100 crédits. Les crédits, c'est très simple, c'est chaque fois que vous posez une question ou vous lui faites générer du code, bah ça vous coûte un crédit. Donc voilà, donc 100 crédits, c'est quand même pas mal. Voilà, j'ai un projet là que je vais démarrer, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est difficile un petit peu d'évaluer le nombre de crédits dont on aura besoin, mais pouvoir itérer 100 fois sur un projet, je trouve que c'est pas mal, quoi. Enfin, sur un projet, bon, c'est sur tous vos projets, dans votre espace de travail. Il y a une notion d'espace de travail aussi qu'ils ont fait, vous pouvez avoir plusieurs espaces de travail. Donc voilà, je trouve que Lovable, là, prend une très bonne tournure. Je l'ai testé rapidement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Au niveau des apps que ça génère en tant que tel, je pense très sincèrement qu'on est sur des choses tout à fait comparables avec les autres concurrents, hein. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ça soit vraiment différent puisqu'ils utilisent les mêmes LLM derrière. Donc voilà, mais ce qui est important dans ces outils, finalement, c'est les interfaces qu'ils proposent. Voilà, de la même manière que sur les assistants conversationnels type ChatGPT, bah, on compare beaucoup les interfaces de Claude, de Mistral, de ChatGPT avec les Canva, les choses comme ça. Bah, sur la génération de code, c'est les interfaces, ce que proposent les fonctionnalités, ce qui est proposé, qui sont intéressants. De toute façon, les LLM derrière, c'est les mêmes pour tout le monde quasiment. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette notion d'interface aussi, elle est importante en général dans ces sujets d'IA générative, à mon sens. Hein. Mais bon, ça, je l'ai déjà évoqué, on en parle régulièrement, il y a plein de types d'interfaces. Il y a aussi des no-interfaces, en quelque sorte, puisque chose aussi où juste vous parlez dans WhatsApp, et puis ça envoie et puis ça fait des choses, et puis voilà. Mais bon, ça, c'est un peu un autre sujet, on y reviendra plus tard. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je suis sûr que la semaine prochaine, il y aura encore plein de nouveautés intéressantes. Puis, écoutez, je vous retrouve au prochain épisode. Allez, à très bientôt.